France Musique.
Ne quittez pas, nous allons prendre votre appel.
Vous aimez Mozart ?
C'est lequel ?
Le dernier.
Peut-être que j'ai pas de pot avec la musique.
T'en fais aussi ?
Moi, plutôt crevé.
Vous croyez pas que c'est un peu réservé à certaines élites ?
France Musique.
La 4 saisons n'est pas qu'une pizza.
Saskia Deville.
Quand on parle de musique classique ou d'art contemporain, c'est amusant de constater que ce sont deux disciplines qui véhiculent les mêmes clichés, du type « ce n'est pas pour moi, c'est très cher » ou encore « il faut connaître ». Pourtant, les artistes tentent au quotidien de briser ces frontières. D'ailleurs, certains, comme notre invité par exemple, y parviennent, passant du sérail au très grand public. Et si nous essayions de mettre tout ce petit monde sur un pied d'égalité et de parler de la musique classique comme si elle était universellement populaire et de la musique populaire comme si elle accédait enfin à l'intemporalité de ce qui est classique, comme le dirait si bien le journaliste et critique musical américain Alex Ross. Le début de cette sonate de Francis Poulenc, interprétée par Eva Maria Thiebaud et Paul Rivinus, ici réunis pour accueillir notre invité Xavier Veillant. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur France Musique, artiste plasticien. Francis Poulenc, pour démarrer cette émission, c'est vous qui l'avez choisi ?
Oui, c'est un petit peu lié à un souvenir d'enfance, parce qu'il y avait souvent de la musique chez moi avec des gens de ma famille qui jouaient plus ou moins bien, et puis de temps en temps des visites parfois de bons musiciens. Et je me souviens très bien d'une sorte d'atelier qui était dans la maison de Mont-Saint-Aignan, à côté de Rouen, où j'ai grandi. Et où il y avait une réunion comme ça de... Je ne sais plus très bien s'il y avait un piano ou s'il y avait juste une flûte, mais je me rappelle de cette musique qui était comme une musique liquide, je dirais, quelque chose d'un sentiment comme ça, de quelque chose qui suit un cours comme un ruisseau.
Qui coule, oui.
Et cette espèce d'étonnement devant les virages que prend, ou les tonalités que prend cette musique, avec la clarté française que j'aime bien aussi chez Debussy, par exemple.
Donc vous avez eu très tôt un contact avec la musique vivante, Xavier Veillant.
Oui, il y avait un truc qui était pas mal chez moi, c'est que je viens d'une famille assez nombreuse, on était 6 enfants, et donc il y avait pas mal de musiciens autour de la famille et dans la famille. Et quand il y avait de la musique en direct, on arrêtait le reste. Il y avait la priorité au direct. Bon, parfois, c'était assez mauvais comme niveau, mais c'était pour le plaisir de jouer ou de chanter, par exemple.
Vous jouiez d'un instrument, justement, ou vous chantiez, peut-être ?
Moi, je me suis rendu compte que je pouvais jouer de la flûte à bec il y a quelque temps, mais parce que j'ai appris ça très sommairement à l'école. Et je joue d'aucun instrument, je suis vraiment pas musicien, contrairement à... Toute ma famille, où chacun maîtrise au moins quelque chose, parfois le chant ou la flûte ou le piano. Mais moi, j'étais vraiment assez nul. Et je m'y suis mis un peu plus tard, là, en jouant du cristal bachet, par exemple, qui est cet instrument qui est assez intuitif, mais très dur à bien jouer. Quand j'ai fait le pavillon, la Biennale de Venise, il y avait un de ces instruments qui était à disposition, donc j'ai pu l'essayer plusieurs fois.
Finalement, la musique, vous la retrouvez par le biais de votre discipline, hein. Alors discipline, de vos disciplines, devrais-je dire, hein. Sculpture, peinture, vidéo, photographie, installation, performance. Qu'est-ce qui provoque chez vous le plus de sensations physiques? Est-ce justement la musique ou les arts visuels, Xavier Veillon?
Je pense que c'est deux perceptions assez différentes que j'ai eu le loisir de comparer souvent, mais... Quand vous avez Chloé qui joue un set de DJ avec une bonne sono, c'est imparable et il se passe quelque chose de physique qu'on ne peut pas tellement retrouver, même dans des installations très spectaculaires. Je pense à, je sais pas, Richard Serra ou l'Arc de Triomphe emballé par Christo, ou bien des œuvres minimalistes comme Robert Morris ou je sais pas, des grandes œuvres d'Anish Kapoor. Il y a quelque chose de très puissant, mais qui infuse d'une manière différente. C'est un petit peu comme si c'était un médicament plutôt qu'une nourriture, par exemple. Il y a un peu cette différence.
Thank you.
Zimmerman au piano, l'orchestre de Cleveland, Pierre Boulez à la direction, sans doute l'un des plus beaux mouvements de toute l'histoire de la musique classique. Ici, ce deuxième mouvement du concerto pour piano en sol majeur de Maurice Ravel, œuvre stupéfiante qui peut certainement guérir et qui, je le vois, Xavier Veillon, vous émeut tout particulièrement. Ça va aller?
Non, c'est, je suis cueilli un peu à froid parce que, je sais pas, l'écouter au casque, la version de Boulez est incroyable.
C'est vrai que c'est une musique dont on se sent proche, à la fois qui nous enrobe, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça
me fait pas tout le temps cet effet-là, hein, mais non, c'est une musique magnifique, mais qui est aussi par sa provenance. En fait, j'y suis venu par deux biais, par le Ravel de Eschnoz.
Le livre.
Qui m'a donné envie d'écouter plus Ravel, que j'écoutais déjà. Et puis surtout Eliane Radig, que j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois et qui nous a accompagnés dans une expérience autour de Occam. Et c'est elle qui m'avait fait la prescription. Voilà, et je crois que c'est la version, enfin je connais pas toutes les versions, mais c'est hyper précis et délicat en même temps, c'est très bien.
C'est vrai magnifique. Christian Zimmerman est un immense pianiste. Ravel qui racontait avoir failli en crever à l'écriture de ce concerto, tellement même ce mouvement d'une fausse simplicité l'avait éreinté. Et ce qui est étonnant de constater, c'est que c'est un concerto de forme assez classique. Pourtant, c'était pas du tout à la mode à l'époque. On est en 1931. C'est un petit peu le résumé aussi de votre approche de l'art. À vous, Xavier Veillant, de ne pas tourner le dos à la tradition, mais de l'interroger, de jouer avec.
Si je peux approcher quelque chose de pareil, c'est bon.
C'est que votre vie est réussie, effectivement.
Non, je pense qu'il y a une modernité cachée. C'est vrai que c'est étonnant. Moi, je pensais que c'était plutôt que ça. Il y a une espèce de clarté aussi et de précision et une gradation comme ça dans cette espèce de courant à nouveau qui est... la caractéristique de la musique pour moi, par rapport à l'image qui a quand même une dimension plus arrêtée. Et là, il y a un flux qui est magnifique. Thank you.
note d'Eric Satie pour l'interprète. Pour se jouer 840 fois de suite ce motif, il sera bon de se préparer au préalable et dans le plus grand silence par des immobilités sérieuses. Vexation d'Eric Satie, joué ici par Jean-Yves Thibaudet. Vexation plurielle, qualifiée par le Guinness Book des records, la plus longue pièce pour piano de l'histoire. Vous l'avez choisie ici, dans un extrait évidemment, Xavier Veillant. Pourquoi cette œuvre-là ?
Dans le travail de Satie, le rapport au dadaïsme et à ce qui est devenu l'art conceptuel après, dans le domaine visuel ou à la limite du domaine visuel. Et là, cette indication de jouer à l'envi le même morceau, très simple, où il n'y a pratiquement pas d'accord, mais des successions de notes. Je me suis rendu compte à un moment que j'aimais beaucoup le piano et que c'était un instrument de percussion. Évidemment, il y a des accords, et il y a des moments d'harmonie, mais c'est techniquement, c'est de la percussion d'un marteau sur une corde. J'aime beaucoup cette relative sécheresse, mais qui attend qu'une chose, c'est que de s'ouvrir. Et en même temps, les 840 fois. C'est un éternel recommencement, c'est comme une journée qui démarre et qui va jusqu'à son recommencement. Il y a cette idée de boucle qui est aussi très présente dans la musique plus contemporaine. Moi, j'écoutais beaucoup de musique répétitive, mais ça peut être de la musique de l'électro, de la musique pop, de la musique classique, contemporaine.
France Musique, Saskia Deville.
Xavier Veillant, quand je vous ai demandé que l'on prépare ensemble cette émission, de me livrer vos choix musicaux, vous m'avez envoyé une liste extrêmement variée, des choix très divers justement à ce sujet. Il y a un ouvrage qui vous a particulièrement marqué, je l'évoquais dans l'introduction de cette rencontre, « The Rest is Noise » d'Alex Ross, qui est un immense critique musical, journaliste américain qui travaille pour le New Yorker. Racontez-nous, qu'est-ce que cet ouvrage a ouvert en vous comme questionnement peut-être.
Alors c'est un livre très très intéressant, c'est un peu une somme, c'est pas spécialement digeste, mais c'est passionnant, et c'est mon ami l'artiste Alain Séchas qui m'avait conseillé de lire ça, qui est quelqu'un de très, très cultivé dans plein de domaines, y compris la musique. Et c'est un livre qui, pour le dire grossièrement, fait le pont entre des chemins qui se sont séparés, entre une musique populaire et une musique plus classique, plus savante. Et évidemment, il y a de la science dans Quincy Jones et dans David Axelrod et dans plein d'autres musiciens, Miles Davis, etc. Mais il y a quand même deux traditions qui se sont séparées, et ce livre remet en regard et en rapport ces deux lignes.
Voilà, peut-être de rétablir des ponts qui auraient été détruits entre différents genres musicaux. Vous le faites aussi à votre échelle en tant qu'artiste, Xavier Veillant. Je pense, vous l'évoquiez tout à l'heure, votre participation à la Biennale de Venise, c'était en 2017. Vous aviez proposé ce studio Venezia, dans lequel vous aviez invité des artistes issus du classique, de la pop, de plein de genres musicaux différents, à venir travailler sur place, à venir exposer leur processus de fabrication de la musique devant donc les visiteurs de l'exposition. Qu'est-ce qui vous a justement donné envie de mélanger tout ça ?
Mais il y avait une intention au départ qui était de créer un lieu dans lequel on pouvait voir des gens travailler, avec cette idée que parfois émerge du travail de studio ou du travail sur l'instrument quelque chose d'intéressant, mais que c'est pas du tout automatique, c'est-à-dire de pas soumettre la condition de cet événement à sa réussite, comme il peut y avoir dans un concert ou dans une performance, de sortir un peu de ce domaine de l'exploit et du quantitatif et d'être plutôt dans le travail. Et donc le lieu que j'avais choisi, c'était le studio, comme un lieu normalement clos et qui était là, ouvert à une quantité publique très importante qui parcourt la Biennale, et surtout sur une durée, la Biennale d'art contemporain dure 7 mois, donc je suis allé pendant 8 mois à Venise et j'ai habité là-bas et j'ai reçu des artistes comme Chassol, Joachim, Borlanino.
Et puis aussi des musiciens de l'Académie de l'Opéra de Paris, des étudiants du Conservatoire de Venise aussi.
Oui, c'était très intéressant de travailler avec des musiciens locaux. Quand je dis avec, c'était d'aller leur chercher des cafés et d'assister à leurs performances et d'accueillir. Et c'était une dimension très importante où l'artiste étant là, au-delà du jour du vernissage, il y avait une dimension d'accompagnement et d'accueil, non seulement pour les artistes qui venaient là chercher leur chemin, travailler, etc., et aussi par rapport au public.
En tout cas, on aurait adoré voir Claude Debussy à l'œuvre, avec qui nous allons fermer cette émission. C'est à nouveau votre dernier choix musical, Xavier Veillant, un extrait du Children's Corner. Snow is Dancing par Alain Planès, qui faisait justement partie de vos invités à la Biennale de Venise. Merci beaucoup d'être venu partager tout cela avec nous sur France Musique. On était ravis de vous recevoir. J'espère à très bientôt.
Merci, oui.
Et puis merci à toute l'équipe, Eric Lancien, Pauline Boisaubert et Emmanuel Armin. Je vous souhaite une très belle journée, chères auditrices, chers auditeurs, et puis à très bientôt sur France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.